Giovanni Paolo II, quando ha scritto
quand Jean-Paul II a écrit un petit peu son testament qui est Novo Millennium Ineunte, dans le paragraphe 9, utilise des paroles prophétiques. Il écrit « Encore une fois, les jeunes se sont révélés être pour l'Église un don spécial de l'Esprit de Dieu. Et Simona est ce don spécial de l'Esprit de Dieu. Qui est-elle ? Elle est née à Cagliari le 13 octobre 1960. C'est la troisième d'une famille de six enfants. En général, pour les grands hommes, ce qui est important, c'est les livres qu'ils ont écrits. Mais pour les saints, ce qui compte, ce sont les rencontres avec le Christ Jésus. Le 20 octobre, Simone devient la fille du Dieu trois fois saint en étant baptisée. À 9 ans, elle s'assoit pour la première fois à la table eucharistique et elle boit et elle mange le pain de la vie éternelle. À 11 ans, elle confirme sa foi à travers le sacrement de la confirmation. Jusqu'ici, cela pourrait sembler être un cheminement tout à fait normal. Mais pour celui qui aime Jésus, il est invité à donner du goût, de donner de l'enthousiasme à son existence. Simone, quand elle est jeune, aime la vie. On la retrouve très souvent dans faisant du sport, particulièrement du volley. C'est une présence joyeuse qui est capable d'exprimer toute sa passion pour la vie. Elle n'est pas seulement engagée dans le sport, mais aussi dans des œuvres sociales. Elle accorde une attention particulière au monde des pauvres. Et en 1977, elle s'engage dans l'association Operazione Africa, une organisation qui a été fondée par un père jésuite, le père Giovanni Puccioni, pour les enfants malades de la lèpre. C'est une expérience qui éduque le cœur de Simone et qui lui permet de vivre la merveilleuse aventure de la gratuité et du lavement des pieds. À travers ces expériences, elle s'engage, elle risque sa réputation. Elle use des sandales à essayer de récolter des fonds économiques à droite, à gauche, des médicaments. C'est une expérience qui vraiment la marque et lui fait comprendre que aimer Jésus, c'est aller être là, dans la rue, et aller à sa rencontre dans la rue. En 1977, c'est encore un autre moment important pour elle, celui de la rencontre avec un groupe de prière du renouveau charismatique Primavera, printemps. Elle s'ouvre donc à cette dimension de la prière et elle sait que la rencontre avec ce mouvement va petit à petit la façonner. En 1978, elle reçoit la prière de l'effusion de l'Esprit-Saint. C'est comme une deuxième naissance pour elle. À partir de là, elle fait un choix particulier. Dans son cœur, elle décide de s'atteler à ce chantier de la sainteté. Elle se dit appelée à être sainte, c'est-à-dire heureuse. Elle a l'intuition que la sainteté, c'est un choix de bonheur, parce que l'Esprit-Saint nous dit que Christ est notre plénitude, notre bonheur. Simone ensuite change de comportement, elle change de vie. Elle s'inscrit à l'Université théologique pontificale du Sacré-Cœur à Cagliari. C'est la première jeune fille qui est admise dans ce type d'études théologiques dans la ville. Cela crée un scandale, pose des problèmes, d'une part parce que c'est une femme au milieu des prêtres et ensuite parce qu'elle est laïque. Mais Simone, à l'école de l'Esprit-Saint et avec la force de sa communauté, prend conscience que toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer ne servent qu'à fortifier les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Elle relève le défi et le décollage est brillant. Elle réussit tous ses examens avec mention très bien. Vraiment, le Seigneur soutient les faibles et tous ceux qui se confient en lui. Simone continue ses études jusqu'à 1983, année où elle vit une expérience fondamentale de sa vie, la rencontre avec la maladie. En 1981, Simone s'ouvre à la beauté, la vocation à l'amour, elle se fiance. C'était une période merveilleuse pour son corps. C'est une période où elle se sent importante pour un autre. Mais Simone sait que l'Esprit Saint répète à son corps, à son cœur, pardon, avec insistance, « Toi, tu es importante pour moi. Tu es précieuse à mes yeux et tu m'appartiens. » Elle vit sa période de fiançailles, mais ne se ferme pas aux autres dimensions. En 1982, elle vit un autre moment de grâce. Elle participe à un rassemblement charismatique international, un rassemblement œcuménique à Strasbourg. Et quand elle revient à Cagliari, elle devient semeur d'espérance. Et elle donne son témoignage à sa communauté Primavera. La communauté charismatique est appelée à garder les richesses que Dieu sème dans nos cœurs. Et nous ne pouvons pas privatiser ces richesses. Ce que le Seigneur sème appartient à l'ensemble de la communauté et nous devons en rendre un témoignage. Dans son cœur, Simone a comme un défi et un rêve. En rencontrant la joie du Christ, elle relève un défi qui prend en fait trois axes. Le premier, c'est de tout miser pour que le Christ soit la joie des jeunes. Deuxième axe, tout miser pour que le renouveau charismatique soit une prophétie de sainteté. Troisième axe, tout miser pour que l'Église soit une forte expérience de foi et de communion. Aujourd'hui, quand nous regardons Simone, sa vie, eh bien nous pouvons dire qu'elle est parvenue au but. Ce défi était un défi quotidien, simple. Elle se mettait au service de l'Évangile à travers le don de l'intelligence qu'elle avait reçue. Elle a toujours eu une très grande attention à porter à sa manière de se comporter. Elle était sérieuse, mais non pas triste. Elle était à la fois humble, réservée, mais bien présente. Elle croyait vraiment à la valeur de l'amitié. En regardant l'autre, elle a découvert un visage différent du sien et dans lequel elle a trouvé les traits mêmes du Christ. Dans la communauté, elle a appris à voir réellement le visage de Jésus. À l'école de l'Esprit-Saint, elle cherchait d'aimer les personnes les plus proches, mais elle essayait surtout d'être comme l'amie et la sœur amoureuse de tous. On peut dire que l'amitié terrestre conduisait pour elle à le grand amour qui est Jésus. C'est dans la vie quotidienne, dans cette routine de tous les jours, qu'elle pouvait vivre cet appel. Nous sommes tous bien conscients que c'est parfois le quotidien qui nous pèse. Eh bien, pour Simone, c'était le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Elle était très attentive dans son cœur à l'Évangile qui lui demandait d'être un acteur de l'amour pour aujourd'hui. L'Évangile qui lui demandait de rire avec qui rit, de pleurer avec qui pleure. Elle n'était pas une jeune fille légère, mais elle n'était pas non plus une bigote, une grenouille de bénitier. Non, elle travaillait pour la transparence du cœur, au point que ceux qui la rencontraient dans la rue, qui parlaient avec elle, avaient l'impression qu'elle lisait dans leur cœur. Elle savait dire les paroles nouvelles dont chacun avait besoin. Elle était une présence qui savait embrasser pour consoler, qui savait être ferme, charitable pour encourager, qui était délicate et pleine d'enthousiasme. Petit à petit, son quotidien va à la rencontre de la croix. Et c'est là qu'elle fera le choix le plus important, aimer Jésus jusqu'au bout, en découvrant que ce qui est le plus important, ce n'est pas tant de faire la volonté de Dieu, mais de découvrir que la volonté de Dieu est notre joie. Au cœur de sa vie, c'est l'Eucharistie. Elle passait des heures et des heures en prière, en contemplation, devant le Saint-Sacrement. Jésus-Eucharistie était son compagnon, son époux, sa force dans les derniers jours de sa vie. L'Eucharistie était donnée avec l'autorisation de l'évêque à travers une seringue, car elle ne pouvait plus avaler. Elle avait besoin plus que de cela, de cette présence de Jésus. Elle disait, je m'approche de l'autel pour boire le sang de mon Seigneur qui est mort pour moi, qui a souffert, qui a pris tous les péchés sur lui. Je bois le sang de mon Seigneur, je me rassasie, je rassasie mon cœur de joie, de vie et d'espérance. Pour elle, l'Eucharistie, c'était vraiment son viatique. Elle aimait le Seigneur dans le tabernacle, jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même le tabernacle du Seigneur, jusqu'à devenir elle-même un ostensoir de chair et transparence de Dieu. Ce n'est pas son héroïsme qui est important, ce qui compte, c'est sa fidélité au milieu des souffrances, son courage de vivre dans la dignité. Toute la souffrance qui était la sienne. Elle était immobilisée au lit et dans les derniers temps, elle est devenue muette, sourde et aveugle. Mais elle chantait toujours dans le Seigneur. Le Seigneur chantait sa louange de manière silencieuse. Sa vie est devenue une accolade à la croix du Christ. Elle disait, « Jésus, si je regarde derrière ta croix, je vois que de l'autre côté du bois, il y a une place libre. » Et c'est là que je veux être, ma main dans celle de Marie, toute proche du Christ. Elle disait que la croix, c'est l'ascenseur qui nous conduit au paradis. Cette place libre sur la croix, derrière Jésus, c'était sa place à elle, mais c'est aussi la nôtre. Derrière une jeune fille apparemment normale, derrière une vie très rapide et très brève de 24 ans, eh bien, il y avait une joie immense, ce miracle de la joie donné par Dieu. Simone était amoureuse de la vie. Dans sa vie quotidienne, le centre de sa vie, c'était cet écoute de l'Esprit Saint. Elle s'est jusqu'au bout confiée dans l'humilité à sa communauté qui l'aidait à être heureuse. C'est notre communauté qui doit nous aider à être heureux et à être saints. Rencontrer Simone, cela veut dire accueillir le défi de l'Esprit Saint. Vendre son propre cœur, son cœur vieux, pour l'échanger avec un cœur neuf. Changer le cœur de pierre en cœur de chair. C'est la conversion radicale du cœur que Simone a vécu. C'est l'effusion de l'Esprit Saint a marqué ce changement et cette renaissance. Elle disait à la fin de sa vie avec une grande joie, tout est un don de Dieu. Elle tenait bien trois points très importants pour elle. Le premier, c'est la charité avant tout. Celui qui est amoureux de Jésus doit le retrouver caché dans ceux qui n'ont plus de dignité. Et c'est pourquoi elle se dépensait sans compter pour les pauvres de la ville de Cagliari. Elle leur donnait des vêtements, de la nourriture, de l'argent. Touchée par la souffrance des autres, on la voyait souvent dans les hôpitaux. Et elle les accompagnait régulièrement à Lourdes. Le troisième point, être prendre la dernière place. Elle était humble et simple, même dans sa manière de s'habiller. Elle aimait ne pas être simple, ne pas porter de maquillage ni bijoux. La simplicité, la sobriété étaient des valeurs qui lui étaient chères. Et c'est pourquoi on peut dire que vraiment Simone est un don pour chacun de nous, pour le renouveau charismatique au niveau international. Parce que Simone, c'est une amie, une sœur. Elle nous propose une amitié que si souvent de nos jours on a du mal à trouver. Au cœur de sa journée, Simone mettait la prière. Elle priait pendant des heures. Très souvent, on la trouvait en train de composer aussi des chants. Elle faisait le service d'ordre dans les rassemblements. Elle était investie dans l'animation liturgique. Et la joie de Simone, c'était celle tout simplement d'une compagne, d'une amie. Elle avait toujours sa guitare avec elle. Une guitare qui est souvent le compagnon des jeunes. Elle la prenait toujours en voyage avec elle. Elle composait des chants inspirés par l'Esprit Saint. Nous avons à peu près une trentaine de chants, des chants de louanges adaptés à la liturgie, qui ont été composés par Simone. Souvent, elle mettait par écrit dans ses chants toute l'expression de son amour. Elle écrivait par exemple dans ses chants « Être ami du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Être des frères du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire se découvrir, se chercher, se comprendre. Cela veut dire s'aimer, partager les mêmes souffrances. Car il n'y a qu'un seul amour. Pour celui qui est dans le Seigneur, il n'y a pas de différence entre mon cœur et ton cœur, car dans le Christ, nous sommes un seul amour. Dans son journal, elle écrivait, « Seigneur, permets-moi de composer des chants qui fassent louer et prier mes frères et sœurs. Le monde a besoin d'entendre chanter, d'entendre ces chants. Il doit redécouvrir qu'il y a un Dieu amour qui nous appelle à la joie. » En 1986, la chorale nationale du renouveau charismatique a mis dans une de ses cassettes un chant qui s'intitule « Canta, 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 chante, chante, chante ». Pour quelle raison ? Eh bien, je cite, « C'est pour Simone que nous avons voulu intituler cette nouvelle cassette « Canta, canta, canta ». Nous devons apprendre de frères et sœurs tels que Simone que le monde a besoin de la louange, qu'il a besoin du chant, qu'il a besoin de s'entendre dire qu'il y a un Dieu unique et vrai qui nous aime, qui est mort et ressuscité pour nous. Ainsi, nous dédions cette cassette audio à tous ceux à toutes ces Simones qui ne sont pas connues mais que Dieu connaît et qui font résonner leur louange devant le Seigneur. Il y a un moment particulièrement beau dans sa vie, c'est sa nouvelle Pâque. Elle est morte à 23 ans, le 18 avril 1984. C'était un mercredi saint. Ses funérailles ont eu lieu en présence d'une grande foule le dimanche de Pâques. Peut-être parce que pour celui qui aime Jésus, le jour le plus beau de la rencontre avec lui, c'est le jour de Pâques. Dans la célébration eucharistique, il y avait des chants composés par elle-même. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne donne pas de fruits. Le témoignage de vie de Simone, c'est une nourriture qui nous encourage dans notre chemin à la suite du Christ. C'est un encouragement pour ouvrir les portes à l'Esprit Saint qui renouvelle et recrée toutes choses. L'histoire de Simone commence à porter du fruit. Nous voyons déjà des signes de la grâce. Et parmi ces fruits, la consécration de Moreno Venturino, qui, il y a quelques jours, est rentré dans la famille des franciscains, dans la branche des capucins. Pour résumer, Qui est Simone aujourd'hui? Simone, c'est une jeune fille amoureuse de la vie. C'est une jeune amoureuse de la Trinité. C'est une flèche lumineuse qui nous indique celui seul qui compte, le Christ. Simone est un fruit concret de l'action de l'Esprit Saint. C'est aussi une épine, une écharde dans notre chair pour nous rappeler que nous ne devons pas nous endormir dans notre chemin vers la sainteté. Simone, c'est un cadeau que aujourd'hui le renouveau charismatique offre à l'Église comme une garantie des arts dans son chemin vers la sainteté. Simone, c'est un don de Dieu pour chacun de nous. Et le 18 août 2003, dans l'archidiocèse de Cagliari, l'évêque a ouvert officiellement le procès de béatification et de canonisation de Simone. Nous le faisons parce que derrière Simone, nous savons que tout le renouveau charismatique est là et soutient ce procès. Je défends moi-même sa cause. Je vous demande aussi à chacun de vous cet engagement vers la sainteté, vers la prière. Au nom de Simone, je vous demande la grâce qu'elle puisse devenir un modèle pour les jeunes du monde entier. Dans le stand de la librairie, vous trouverez cette image avec une prière de Simone. Je crois, il me semble que Simone, c'est la première procès de béatification pour une jeune du renouveau charismatique. Il y en aura, je pense, beaucoup encore après elle.